commencer. Merci beaucoup, Delphine, de ta présentation. C'est vraiment, tout ça est vraiment très intéressant, très stimulant. Alors peut-être d'abord un complément en fait sur ce que tu viens de dire. Je pense que ton travail vient approfondir une dimension d'une autre ou du mien, si on veut être un peu égocentrique ici, qui est justement cette remise en cause de l'image de Marseille comme ville cosmopolite, ville ouverte, etc., qui est une réalité, mais à côté de laquelle il faut immédiatement dire que ça ne veut pas dire que tout s'est toujours bien passé. Alors en fait, pour être un tout petit peu plus précis, je pense que ça tient non pas au statut réfugié versus migrant classique, migrant économique, mais beaucoup plus à la catégorie sociale en fait, à laquelle ils appartiennent. Et ça m'amène d'ailleurs vers une des questions, mais bon, je pense que je peux y répondre, mais je pense que ce serait intéressant quand même de le préciser, c'est-à-dire que ces exilés politiques font quand même partie malgré tout d'une élite sociale, en général, pas toujours.
Oui, parce que les carlistes, c'est pas le cas, justement.
Bon, ça dépend desquels. Mais disons que c'est pas pour la plupart des ouvriers de base qui viennent sur le marché du travail. Voilà. Et les tensions xénophobes à Marseille dans le monde ouvrier, elles sont extrêmement liées dans la seconde moitié du 19e siècle à deux choses. Soit aux crises économiques, donc effectivement 46-48 ça va très mal, soit la Grande Dépression à la fin du siècle, ou à des événements politiques type Vêpres marseillaises, etc. Mais enfin voilà, je pense qu'il faut avoir ça à l'idée. Alors après, ce que tu as dit est effectivement très vrai, c'est-à-dire que dans la crainte de... dans Marseille interdite, disons, hein, dans l'idée Marseille ville interdite aux réfugiés, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a le fait que Marseille, depuis très très longtemps, au moins Louis XIV, est une ville qui a une réputation de ville insurrectionnelle, en fait, en France. Marseille est une ville qui est... véritablement dompté par Louis XIV, hein, mis sous la coupe de la monarchie absolue. C'est une ville qui, pendant la Révolution, est totalement incontrôlable. C'est une ville qui a toujours été hostile au bonapartisme. Donc ça explique aussi peut-être pourquoi ton histoire de Polonais, pourquoi Marseille manifeste en faveur des Polonais alors que Louis-Napoléon Bonaparte les empêche de passer, parce qu'en fait Marseille est une ville franchement anti-bonapartiste sous le Premier et sous le Second Empire. C'est une ville marquée par la Terreur blanche, donc c'est une ville très particulière en fait, et c'est sans doute pour ça qu'il y a cette a priori, au-delà du fait que c'est une grande ville, mais comme tu le dis, c'est une ville qui, effectivement, en 48, ça ne bouge pas beaucoup à Marseille, et il n'y a pas en fait des insurrections ouvrières type lyonnais ou parisien, donc c'est un peu particulier. Je pense que c'est plus lié au statut et à l'image de la ville et à son passé. Au passage, pour les étudiants qui sont ici, Delphine a dit quelque chose de très important, mais en fait on est ici dans une Europe qui est avant l'Europe des États-nations. C'est vraiment hyper important, et donc on est dans une Europe qui est très connectée finalement sur le plan politique. Et quand il y a la révolution en Pologne, ça a des ou à Berlin, ça a des répercussions immédiates dans les autres grandes villes d'Europe. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important qu'il faut comprendre. D'ailleurs, en mai 48, à Paris, qu'est-ce qui fait basculer, entre autres, la Seconde République ? C'est une manifestation en faveur de la Pologne. Donc, bon, voilà. Alors, donc ça, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Alors après, sur le plan local, ce qui est extrêmement intéressant dans ce que tu as dit, c'est qu'il y a une succession de générations de réfugiés à Marseille, notamment des Italiens. Et ensuite, ça a des effets dans la mémoire politique de la ville. Parce que, par exemple, tous les anarchistes italiens de Marseille à la fin du 19e siècle se réfèrent aux réfugiés italiens. Les socialistes de la fin du 19e, pareil, se réfèrent à Mazzini. Les antifascistes dans l'entre-deux-guerres se réfèrent eux-mêmes. Donc il y a une sorte de généalogie de l'exil politique à Marseille, comme ça, qui est vraiment très intéressante. Dernier élément que je voulais... ajouter, c'est que sous le Second Empire, en fait, moi je travaille sur la période suivante, et moi je travaille pas sur l'exil politique, mais sur la migration tout court. Et en fait, ce qui se passe sous le Second Empire, et c'est vraiment intéressant, je pense, la charnière entre nos deux périodes, c'est que autant Napoléon III ne veut plus accorder d'argent comme tu le dis, moins aux exilés, autant il veut absolument attirer les émigrants, parce que ça rapporte de l'argent à la France, c'est un commerce. Et donc ça, c'est vraiment intéressant, parce qu'à ce moment-là, on a une sorte de basculement. Il veut que la France reste un pays de transit pour l'émigration, notamment l'émigration transatlantique, mais il veut plus accorder d'argent aux réfugiés. Donc on est dans une vision, d'ailleurs c'est pas étonnant hein, que le Second Empire soit un basculement, mais on est dans une vision totalement différente ici, beaucoup plus libérale au sens économique du terme, qui correspond à ce changement. Alors j'aurais essentiellement trois questions. Une question de source. Est-ce que tu as travaillé sur d'autres sources que les sources de police, type journaux, mais surtout correspondance, bon, voilà. Ça, c'est une question assez factuelle. Est-ce que ces exilés ont un lien avec les immigrés à la même époque ? Si tu prends le cas de Marseille, il y a des immigrés italiens à cette époque-là qui ne se revendiquent pas forcément de l'exil politique, par exemple. Et la troisième question qui m'est venue à l'idée, c'est d'où vient l'idée qu'il faut accorder un secours financier aux réfugiés. Alors, j'ai deux idées là-dedans. D'une part, il y a une matrice, comme tu l'as dit, chrétienne, charitable, hein, et la distinction classique entre le bon pauvre et le mauvais pauvre, en fait, celui qui est responsable de sa pauvreté et celui qui n'en est pas responsable. Donc, traditionnellement, on accorde la charité à celui qui n'en est pas responsable. C'est une première idée. L'autre idée que j'ai en tête, c'est qu'il y a sans doute derrière ça une matrice révolutionnaire, l'idée que la France doit assumer son héritage de lumière des peuples et du libéralisme en Europe. Et du coup, à l'inverse, je me demande si dans les textes que tu as trouvés, il y a un lien avec les émigrés de la Révolution. Si on fait le parallèle entre l'asile accordé aux nobles français qui ont fui la Révolution française et en retour l'asile qu'on accorde par exemple aux carlistes ou à ceux qui sont pour les Bourbons ou pour la contre-révolution, puisque finalement ils sont les enfants d'une même idéologie, ou du moins pas très éloignés. Donc voilà, ça c'est les trois questions que j'avais à te poser. Merci beaucoup, c'était vraiment...
Ben non, c'est moi qui te remercie pour cette écoute. Alors effectivement, ouais, non, j'ai pas parlé de tout ce contexte hein, de Marseille comme ville potentiellement insurrectionnelle. Mais c'est vrai que ce qui est vraiment étonnant, c'est que ça n'apparaît jamais explicitement dit pour justifier l'interdiction de Marseille aux réfugiés. Contrairement à Paris, où en revanche, là, le préfet de police de Paris, en 1831, va justifier l'idée d'exclure définitivement les réfugiés de la capitale. Ce qui est complètement, ce qui n'est pas appliqué en pratique ensuite, hein, mais avec l'idée qu'il faut éviter que les réfugiés puissent être une sorte de ferment de la révolution toujours présent là où il ne faudrait pas qu'ils soient. Mais c'est vrai que pour Marseille, j'ai jamais vu dans les sources, dans la correspondance des préfets avec le ministère, expliquant vraiment, disant explicitement.
Ce que tu retrouves souvent, c'est l'idée que c'est une porte ouverte.
Oui, c'est une porte ouverte. Voilà. Voilà, c'est ça. La porte ouverte, mais la vraie justification politique au sens propre du terme.
Non, c'est effectivement.
Bon, je l'ai pas retrouvée, mais bon, peut-être que j'ai pas encore assez cherché. alors, sur la question des sources. Alors oui, j'ai surtout travaillé sur les sources de police. Mais pas forcément seulement sur les sources françaises, sur la question de Marseille. J'avais fait aussi un travail à Rome, aux archives du Vatican, qui permettent en fait d'avoir un aperçu des correspondances pontificales dans toute l'Europe sur la question des réfugiés, puisque c'est une question en fait centrale dans ces correspondances de consulats, de représentations pontificales dans les différents pays d'accueil, et en particulier en France. Et notamment, on a sur Marseille, de ce point de vue-là, énormément de sources, bon, là aussi, qui relèvent davantage de sources du contrôle, avec des représentants des États pontificaux qui disent « là, celui-là, il faut absolument l'exclure de Marseille », et qui parfois obtiennent gain de cause auprès du préfet, hein, en dénonçant des réfugiés italiens qui doivent être absolument déplacés de Marseille en raison de leurs opinions politiques trop avancées, libérales puis républicaines. Hein. Donc là aussi, de ce point de vue, les sources les sources de type policière ou les sources consulaires sont importantes. D'autres sources possibles également que j'avais croisées, notamment sur l'exil à Marseille, que j'ai pas du tout reprise ici parce que j'avais pas forcément le temps de tout exploiter, mais notamment des mémoires et des autobiographies ou des fictions de nature autobiographique, en particulier un texte d'Angelo Flignani qui s'intitule en français, dans la version traduite en français, Ma folie dans les prisons, qui va raconter, en fait, c'est un exilé issu des États pontificaux, qui va raconter dans son autobiographie romancée, en fait, puisque c'est pas de lui qui parle directement, mais en fait c'est de son itinéraire qu'il parle, son itinéraire en passant par la Provence. Donc là aussi, on a des choses sur le passage par la Corse, par Aix, Marseille comme lieu de passage. Donc c'est un exemple parmi d'autres. C'est un livre qui paraît d'abord en italien en 1838, si mes souvenirs sont bons, et en 39 ensuite traduit en français en France, mais qui vous montre en fait toute la diversité des sources qui peuvent être utilisées pour appréhender cet exil à Marseille. Donc là, je me suis essentiellement concentrée sur les sources policières, mais il y aurait bien d'autres possibilités de sources pour éclairer, avec le regard même des exilés eux-mêmes, avec les regards notamment des exilés italiens qui ont laissé beaucoup de choses sur leur passage à Marseille, qu'on pourrait tout à fait exploiter. Alors les liens avec les émigrés, ils sont en effet extrêmement nombreux. Par exemple, on peut penser à la communauté grecque, où il est parfois très difficile de départager ceux qui sont là à Marseille comme négociants ou ceux qui sont là comme exilés. Parfois, on a des personnes qui revendiquent la double identité et on a à la fois une justification économique, commerciale de la présence à Marseille et une justification politique. Donc là aussi, on se retrouve face à des identités qui sont parfois multiples et donc faut bien faire attention à ça. Alors après, ce qu'on peut dire aussi, c'est que même dans les sources policières, on a beaucoup d'éléments sur les liens entre, par exemple, les exilés italiens et les négociants qui les aident, les capitaines de navires qui les aident aussi sur place, notamment parfois en leur procurant des papiers, en les aidant à se cacher ou à trouver un travail dans les maisons de commerce. Et ça, on le retrouve vraiment de manière très très importante, aussi bien dans les sources policières des archives départementales des Bouches-du-Rhône que dans les dossiers des archives nationales, parce qu'il y en a beaucoup aussi, je ne les ai pas cités, pas beaucoup exploités non plus, et pas cités beaucoup, mais en fait, il y a énormément de dossiers sur les Italiens à Marseille qui sont conservés aux archives nationales pour la restauration. Beaucoup moins de choses sur la monarchie de Juillet, mais sur la restauration, on a énormément de dossiers et qui permettent, alors là, je ne l'ai pas fait, dans le temps qui m'était imparti, mais en effet, on a beaucoup de dossiers qui permettent d'éclairer comment certaines maisons de commerce tenues par des Italiens vont permettre à des exilés de se cacher, d'adopter une nouvelle identité de négociant aussi pour éviter les recherches, les perquisitions, et notamment pour ceux qui sont engagés du côté des Carbonari, de la société secrète. Donc de ce point de vue-là, il y a aussi beaucoup de choses. Il y aurait beaucoup de choses à faire. Donc là, je parle de la restauration, mais on a aussi beaucoup de choses sur les liens entre émigration économique et politique sous la Seconde République, cette fois-ci du côté des archives départementales. Où là aussi, on a l'idée que certains commerçants vont, par exemple, se charger de recueillir chez eux les correspondances des exilés républicains, donc ils vont en quelque sorte servir de boîte aux lettres parfois permettre de réexpédier ce courrier ou ces courriers compromettants ou des écrits politiques qui vont rediriger vers les États italiens. Et donc là aussi, il faut bien voir le côté très hybride de ces liens entre exilés et émigrés. Alors je ne l'ai pas du tout assez montré dans mon intervention, c'est vraiment important en effet de bien le souligner. Alors enfin, sur la question de savoir d'où vient l'idée qu'il faut accorder un secours aux réfugiés. Je pense que c'est une question à laquelle... je ne sais pas s'il y a une réponse unique, en fait, à cette question possible. Alors je souscris totalement, en effet, à ton idée de la distinction entre le bon pauvre et le mauvais pauvre. Le bon pauvre qui ne doit pas à lui-même son malheur et son infortune. Je souscris aussi à l'idée de la matrice révolutionnaire, même si, en fait, en pratique, il faut bien noter qu'avant même la Révolution... Avant même l'adoption de la Constitution montagnaire de 1793, qui pour la première fois dans un texte constitutionnel dit que les étrangers opprimés pour la cause de la liberté ont droit à l'asile en France, Eh bien, avant même cela, en fait, à la fin du règne de Louis XVI, on va avoir des secours financiers accordés aux réfugiés hollandais accueillis en France en grand nombre à partir de 1787. Donc, est-ce que c'est vraiment la matrice révolutionnaire ou pas ? Alors, bien évidemment, ça va acquérir un poids beaucoup plus important à partir de la Révolution, et ça va être justifié par de nouvelles bases, puisqu'à partir de la Révolution, l'asile n'est plus seulement un bienfait ponctuel qu'on accorde à un groupe, mais c'est en quelque sorte un devoir que l'on doit exercer à l'endroit des réfugiés qui viennent pour la cause de la liberté. Hein ? Donc en effet, il y a un basculement bien évidemment, mais malgré tout, la pratique d'attribuer des secours à des personnes persécutées pour leurs idées, elle a déjà eu lieu avant la Révolution française. Ce qui nous permet un peu de relativiser aussi le point de rupture. Alors ensuite, pour la question des liens avec les émigrés de la Révolution, alors de ce point de vue, c'est assez complexe, puisqu'effectivement, on n'observe pas de lien, on a plutôt l'idée justement qu'il faut bien distinguer exilé et émigré, hein, les deux termes. Pourtant, c'est quasiment la même chose, mais c'est vrai que ce souvenir des émigrés de la Révolution française n'est pas vraiment important dans la façon de. Enfin, je sais pas, en tout cas, moi je ne trouve pas de manière.
Voilà. Toi, mais oui, pourtant. Priori, ça paraît
alors,
étonnant.
En revanche, ce qui est intéressant, c'est que par exemple, du côté des carlistes, on va parfois trouver, alors c'était pas dans le cas d'archives policières aux archives départementales des Bouches-du-Rhône, mais dans d'autres archives départementales, où j'ai retrouvé des pétitions de réfugiés carlistes qui disent « Voilà, aujourd'hui vous nous devez l'asile parce que nous, on a accordé l'accueil à des émigrés français durant la Révolution en Espagne. » Et donc il y a une contrepartie et il y a...
Charles X, des dommages, bien sûr. Même de la même manière, des émigrés. Mais
oui. Le lien n'est pas établi.
Non, alors c'est juste un lien idéologique, de filiation.
Ouais.
De filiation. L'Europe blanche.
Voilà, pour l'Europe blanche, exactement.
On prend peut-être des autres questions.
Mais merci en tout cas, à toutes deux.
Sur cette question justement d'où vient l'idée d'attribuer des subsides à des réfugiés, à des exilés politiques, est-ce que ça peut avoir un lien avec peut-être des pratiques aussi plus anciennes des pratiques ou des principes qui viendraient de la manière de concevoir la guerre, les règles de la guerre, de la guerre moderne?
On prend quelques
Moi, j'avais aussi une réaction. D'abord, merci beaucoup. À mon tour, je m'associe aux remerciements qui ont été faits pour souligner combien c'est très stimulant. Alors, je reviens sur le temps présent avec ma casquette de sociologue. J'avais une question autour de cette question de ville-refuge. Actuellement, vous savez sans aucun doute, il y a cette notion, ce label de ville-refuge qui est utilisé par certaines municipalités à travers le monde, que ce soit aux États-Unis, au Canada, au Brésil, en France, Paris, se désigne en tant que ville-refuge pour caractériser le fait que des maires viennent s'opposent en quelque sorte à la législation national et au mouvement de durcissement qu'on connaît actuellement. Donc je me demandais, toutes choses égales par ailleurs, si vous aviez des éléments dans vos archives et dans la correspondance politique qui pourraient aller dans ce sens-là. C'est-à-dire au-delà du préfet des Bouches-du-Rhône, est-ce que vous avez des correspondances qui pourraient finalement souligner ce hiatus et expliquer en partie, parmi d'autres raisons, vous les avez soulignées, la pratique impossible, la ruse, la porosité des frontières, qui pourraient expliquer ce hiatus entre cette décision venue d'en haut d'interdire, d'expulser, etc., et puis, localement, la mise en... Voilà, la réalité et la présence assez importante de ces populations. Donc, est-ce qu'il y aurait une forme de résistance, de tolérance politique et qui pourrait être perceptible à travers certaines sources de ces correspondances politiques au-delà du, ou en deçà plutôt, du préfet. Mmh. Voilà, c'est une question de sociologue.
Une toute petite question, peut-être de géographe, à propos de l'ordonnance de 1933, bon, il me semble que vous avez donné des explications concernant Marseille, Paris et Lyon, mais pourquoi Grenoble, Bordeaux, Rouen sont interdits?
C'est les plus grandes villes, en fait, hein, à l'époque, tout simplement, en fait. Hein.
C'est les plus grandes villes,
ouais,
à l'époque.
Bon.
Savoir que les villes de plus de 50 000 habitants à l'époque sont sous un statut policier particulier.
Mmh. Okay. J'aurais une question sur la Corse plaque tournante. Mmh. C'est des critères définitoires de plaque tournante à l'époque.
Non, ça intéresse
bien. Moi, je travaille, c'est une question de sociologue, vraiment sur l'immigration sud-italienne aujourd'hui, sachant qu'il y a aussi non seulement des mouvements politiques, mais des mouvements migratoires. Et ça fait un moment que je suis les mêmes parcours que les Siciliens, par exemple. Et j'ai du mal à trouver des parcours via la Sardaigne et la Corse. Et je me demande pourquoi. Donc, est-ce que cet état de plaque tournante, donc comment ça a été défini? Est-ce que, historiquement, il y a eu une période faste, un âge d'or de plaque tournante corse? Voilà, si vous aviez des précisions, des orientations bibliographiques,
oui,
ou autres, d'archives, je suis prête pour ça.
D'accord. Je vais te répondre à la première question. Ouais. Alors pour la question de la pratique d'attribuer des réfugiés, des subsides aux réfugiés et de la réinscrire dans la question de l'héritage des pratiques guerrières, là vraiment je ne peux pas vous répondre précisément. Je ne sais pas si c'est une justification. J'ai jamais trouvé ce type de justification en tout cas. Ce qui est aussi une autre justification possible, hein, que je n'ai pas évoquée, mais qui est largement évoquée, par exemple, par Gérard Moriel, c'est aussi l'idée qu'il s'agit, par le biais des subsides, de garantir à ces réfugiés, souvent issus des élites, hein, rappelons-le, comme l'a fait tout à l'heure Céline, hein, leur garantir, en fait, la poursuite d'un même train de vie. Hein, et donc, effectivement, il y a aussi l'idée que on va leur garantir par le biais des subsides une vie à peu près équivalente à celle qu'ils auraient pu continuer à mener chez eux. Donc ça, je ne l'ai pas évoqué, mais il faudrait bien sûr l'ajouter, hein, parmi ces moyens de justifier l'octroi de secours aux réfugiés. Et en effet, je ne l'ai pas dit non plus, hein, mais les secours variaient en fonction du statut social et en fonction donc à la fois du statut civil et à la fois aussi en fonction de la place dans la hiérarchie militaire quand il s'agissait de réfugiés militaires. Pour la question donc de la comparaison avec le temps présent et les villes-refuges, villes-sanctuaires, alors il n'y a pas, en tout cas, à ma connaissance, même si je rappelle, hein, je n'ai pas travaillé sur les archives municipales, donc de ce point de vue, il faudrait encore approfondir pour être beaucoup plus précise, mais il n'y a pas de pratique qui permette de parler d'une ville-sanctuaire liée à l'action, par exemple, politique d'un maire durant la période. En revanche, effectivement, il y a des hiatus. Ça, c'est vrai, et on l'observe à travers les correspondances de l'époque. Par exemple, je citais à la fin de mon intervention, mais je fais là un petit peu vite, en 1850, on voit que le préfet est extrêmement inquiet de la présence des réfugiés italiens. Et en revanche, à une échelle plus locale, le commissaire central de Marseille dit « Non, mais attendez, là, les réfugiés italiens, ils ne posent pas véritablement un problème. » Donc voilà, il y a effectivement des discours qui sont parfois discordants sur la dangerosité ou pas des réfugiés. Et par ailleurs, alors là, je parle ici, donc je parlais du commissaire de police, mais si on descendait encore, hein, on pourrait parler aussi de l'action, par exemple, de certains tenanciers d'hôtels garnis qui vont aider certains Italiens, pas seulement des réfugiés, mais aussi des ouvriers, à pouvoir rester et à pouvoir s'installer à Marseille avec parfois des faux passeports et une fausse identité qu'ils vont couvrir. Donc on a effectivement parfois des acteurs locaux qui vont jouer un rôle important dans l'accueil et qui vont parfois contrevenir aux interdictions et aux législations, aux réglementations posées à une échelle nationale. Donc de ce point de vue, il y a effectivement parfois des hiatus. Mais sans qu'on puisse parler néanmoins de ville-refuge telle qu'on la connaît ou telle, voilà, telle qu'elle se, parfois se met en place dans certaines municipalités aujourd'hui en Europe. Alors, sur la question de la Corse, il y a des travaux. Je pense, par exemple, il y a un livre collectif en italien dirigé, dans mon souvenir, par Marco Cini, qui doit être paru au début des années 2000, sur l'accueil en Corse. Et il me semble que c'est un ouvrage collectif qui réunit, dans mon souvenir, des contributions de chercheurs italiens et français qui permettent vraiment de faire le point sur la question. Je vous enverrai, si vous voulez, je vous donnerai la référence en cherchant plus précisément dans mon ordinateur. Mais en effet, alors, la Corse plaque tournante, c'est moi qui parle de plaque tournante, hein, bien sûr, c'est pas un terme du tout d'époque. Mais ce qu'on peut observer en effet, c'est qu'il y a une grande porosité, il y a une moins importante vigilance sur l'arrivée des exilés italiens en Corse sous la Restauration et au début de la monarchie de Juillet. Et en l'occurrence, là aussi, il y a le rôle d'un préfet qui va être beaucoup plus laxiste que ne le voudraient les autorités. Donc je ne me souviens plus du nom exact, je suis désolée, mais là aussi je peux retrouver, qui va être peu à peu rappelé à l'ordre en lui disant « Attention, là, il faut vraiment que tu sois beaucoup plus vigilant sur qui tu accueilles et que tu contrôles davantage les passeports des nouveaux arrivants, par exemple. » Et en pratique, en effet, on observe qu'à la fin de la Restauration, au début de la monarchie de Juillet, bah, le passage par la Corse, c'est vraiment c'est une étape pratiquement obligée, hein, une étape très très fréquente dans les itinéraires d'Italiens qui rejoignent la France. Et là-dessus, on a à la fois donc, des sources policières, mais aussi des mémoires d'exilés qui racontent leur passage par la Corse et parfois leur installation en Corse. Puisque pour certains, en fait, le séjour en Corse était vu comme étant plus facile. La pratique de la langue aussi était plus évidente. Donc on a des exilés qui se plaisaient beaucoup plus en Corse, finalement, qu'en métropole. Quoi. Donc, voilà. Mais sur cette question-là, il y a beaucoup de travaux plutôt du côté italien. Voilà. Donc je crois que j'ai répondu à l'ensemble des questions, mais je peux en oublier, mais je peux encore.
C'est les langues. Ouais, il y a une derrière.
Oui, ce serait plutôt à propos des trajectoires en fait. Ouais. Et là, savoir si les exilés quand ils arrivent, ils ont plutôt tendance à arriver seuls ou alors avec leur famille. Ouais. Et du coup, s'ils arrivent seuls, est-ce qu'après il y a une certaine logique de regroupement familial? Et puis après, est-ce que Marseille finalement, c'était vraiment une ville de passage, c'est-à-dire qu'ils avaient tendance à une fois arrivés à Marseille à partir après? Mmh. Ou alors est-ce qu'il y avait tendance à plutôt s'implanter directement dans la ville?
Alors c'est une question très importante, la question de l'arrivée seule, en famille, accompagnée ou pas. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est à travers notamment les statistiques des réfugiés secourus, puisque ce sont ceux sur lesquels on a des statistiques, sur les autres on reste un petit peu dans l'obscurité. Mais par exemple sur les réfugiés secourus, on sait en 1831 à une échelle nationale, là on a des statistiques, on est content, que 90% d'entre eux sont venus, 90% des réfugiés secourus sont des hommes, et qu'il n'y a que 10% de femmes et d'enfants. Hein. Donc ce qui vous montre quand même le caractère essentiellement masculin à l'époque de ces émigrations. Caractère masculin est quand même relativement solitaire de cette expérience de l'exil. Alors attention, en effet, ça ne veut pas dire que... parce que les statistiques que je vous cite sont celles de l'année de septembre 1831. Et en réalité, on sait qu'après, il y a eu beaucoup, effectivement, de phénomènes de regroupement familial avec des réfugiés qui faisaient venir, une fois qu'ils avaient assez d'argent pour le faire, leurs femmes et enfants sur le sol français. Donc là aussi, faire attention à toutes les familles, finalement, qu'on n'arrive pas à saisir par le biais des chiffres des secours. Ce qu'on peut dire en revanche, en effet, c'est que on a des liens familiaux qui se mettent en place, soit qui se réactivent, soit qui se mettent en place, puisqu'on va aussi avoir beaucoup de mariages mixtes parmi ces réfugiés, notamment parmi ceux qui vont pérenniser leur séjour, ce qui n'était pas le cas de tous. Ensuite, savoir déterminer si Marseille était surtout une ville de passage ou une ville de résidence. Le passage est quand même prééminent, puisque beaucoup de réfugiés ne pouvaient pas s'installer à Marseille, hein, comme j'ai essayé de le montrer, et que ceux qui voulaient absolument s'y installer devaient quand même faire preuve d'une volonté d'installation très, très claire, de possibilité d'emploi, hein, puisque là aussi, c'était un des critères essentiels pour autoriser ou non un réfugié à vivre dans la ville, s'il pouvait notamment arguer qu'il allait être embauché par une maison de commerce ou par un, par n'importe quelle forme d'entreprise une fois dans la ville. Donc là, c'était une dimension aussi importante. Donc en effet, davantage ville de passage que ville de résidence, même si on voit quand même à travers à la fois les sources policières et à travers les témoignages, sources de presse et témoignages de Marseillais sur la résidence des étrangers à Marseille, que ils étaient quand même assez nombreux aussi à vivre de manière assez pérenne dans la ville. Voilà, donc la double dimension est présente, même si malgré tout, ça reste quand même davantage à cette époque une ville de passage qu'une ville d'installation pérenne.